C'est la rentrée pour Chercheurs en Ville, un temps de l'année où les projecteurs sont braqués sur ceux qui réussissent, ceux qui entreprennent. La rentrée des classes, la poursuite des études, la signature d'un contrat ou l'obtention d'une promotion. Et en parallèle, il y a ceux qui ne sont concernés par aucune de ces catégories, celles et ceux qui sont durablement éloignés de toute forme d'intégration par l'emploi ou l'apprentissage de savoir. Des difficultés d'autant plus inquiétantes quand elles sont vécues à un âge où suivre des cours ou bien débuter une carrière est une norme. Rennes, ville étudiante, est comme chaque grande ville concernée par cette problématique des jeunes en errance, des jeunes aussi souvent dépourvus de liens professionnels que familiaux, et des jeunes pas forcément accompagnés par des pouvoirs publics qui ne sauraient dans quelle case les ranger. Mais alors, à partir de quand estime-t-on qu'un jeune est en errance? Quels sont les chemins qu'il emprunte? Comment peut-il en sortir? La réponse dans Chercheurs en Ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en Ville, premier numéro de la troisième saison. Vous nous écoutez désormais le vendredi à 13h ou bien toujours le samedi à 9h, une fois par mois sur Canal B. Il y a des choses qui ne changent pas, chaque mois un invité, aujourd'hui Céline Rothet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, ingénieur de recherche à l'école des hautes études en santé publique et membre du laboratoire à Rennes. Et vous serez interviewé durant une heure par Xavier de Bantride. Bonjour Xavier.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Et Christian Lebar. Bonjour Christian.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Xavier, c'est à vous.
Merci Renan, vous avez déjà bien introduit le sujet avec toute une série de questions qu'on effectivement on a envie de poser à Céline Rothet. Vous venez de publier un ouvrage vraiment intéressant sur cette problématique des jeunes en errance. C'est le fruit d'un travail universitaire, d'une thèse que vous avez menée durant plusieurs années sur cette population qui est un petit peu invisible, ou alors au contraire tellement visible qu'on ne sait pas tellement comment la prendre. C'est de cela dont on va parler, singulièrement ici à Rennes. Il suffit de sortir de ce studio, de traverser l'esplanade Charles de Gaulle et de les croiser, ces jeunes en errance, comme vous le dites. Et vous avez un sous-titre qui m'a interpellé lorsque je l'ai découvert, « Relations d'aide ». Et carrière de marginalité. On peut faire carrière en étant marginal, Céline Rothet?
Oui, alors effectivement, c'est carrière, mais c'est un peu au sens de faire carrière quand on est un professionnel. C'est comment finalement on s'engage dans une façon de vivre, dans une identité aussi. Et c'est un peu ça que j'ai cherché à décrire dans ce livre. C'est au-delà de la relation qui est entretenue avec les services d'aide, c'est aussi, cette relation est révélatrice aussi de plus largement une identité que ces jeunes se construisent, et se construisent pas uniquement dans le rapport aux services d'aide, mais plus largement dans justement cette mise en scène,
l'occupation de l'espace public,
voilà, leur tenue, les chiens, le bruit, cette impression de vraiment de une attitude très très provocatrice, mais qui est
il faut choquer le bourgeois aussi. C'est toujours ça le sujet,
c'est aussi une façon d'exister, je pense. Parce que effectivement, comme on l'a entendu en introduction, c'est des jeunes qui sont à l'écart des normes de l'insertion vers l'âge adulte. Qu'est-ce que doit être un jeune aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il prouve qu'il a une place dans la société en ayant un logement, un diplôme, un emploi? Eux, ils sont pas du tout dans cette dynamique-là. Donc c'est au-delà de la provocation, c'est une façon d'exister aussi.
Est-ce qu'on peut les caractériser, justement, en introduction de cet échange? De quel type de jeunes parlons-nous, en termes d'âge, en termes de sexe, en termes peut-être aussi de parcours ou d'origine?
Alors, moi, je ne vais pas pouvoir donner des chiffres ou des choses très objectives, principalement parce que c'est très difficile d'objectiver cette population qui est fuyante, hein, qui est pas facile à contacter. Avec qui il n'est pas facile d'échanger.
Vous y avez pourtant réussi, et on verra tout à l'heure.
Oui, mais avec une petite partie d'entre eux, les Rennais à l'époque, effectivement, pas que, mais en partie.
Donc une population difficile à appréhender,
voilà,
disiez-vous.
Alors, pour leurs caractéristiques, ce qu'on peut dire, c'est que ils ont des caractéristiques communes, dont souvent des longues trajectoires de rue. Alors, on peut pas.
Ça commence tôt, c'est
voilà,
ça l'idée.
Pour une partie d'entre eux, hein. Certains vont y arriver plus tard. Mais souvent, on voit que ceux qui vont rester dans la rue, qui vont avoir ces carrières justement de rue, c'est-à-dire qui vont finalement dire que leur identité, leur vie, c'est la rue. C'est ceux qui, dès leur adolescence, vont avoir côtoyé la zone. parce que c'est pareil, pour revenir sur jeunes en errance, c'est une catégorie un peu administrative, un peu institutionnelle. Eux, ils se disent zonards, ils côtoient la zone, ils se disent pas jeunes en errance, c'est les autres qui disent ça. Et effectivement, ils ont côtoyé la zone depuis qu'ils ont 13-14 ans. Ils ont pour beaucoup eu des grosses difficultés familiales. Beaucoup sont passés par l'aide sociale à l'enfance ou y ont échappé, mais avec vraiment des trajectoires familiales, sociales compliquées.
Qui a bossé par la vie déjà. Hein.
Voilà. Qui les ont amenés dans un peu un cycle de rupture avec les institutions, l'école, les institutions de prise en charge un peu traditionnelles de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'ils ne s'inscrivent pas dans des trajectoires un peu classiques.
Beaucoup de garçons, mais des filles
voilà,
aussi.
Hein. J'allais dire. Alors garçons-filles, voilà, on voit beaucoup les garçons, on se préoccupe beaucoup des filles. Mais de manière générale, dans la société, on, quand il y a des trajectoires à risque comme ça, on s'inquiète beaucoup pour les filles. Là, je sais que les professionnels disent que le nombre de filles augmente beaucoup, que les pratiques des jeunes femmes sont préoccupantes.
Elles se mettent parfois en danger de manière encore plus radicale.
Et ben en fait, au moins aussi radicale, mais du coup, comme c'est les femmes, et que de manière générale, dans la société, les femmes ont tendance à adopter les comportements des hommes, enfin qui étaient jusqu'alors réservés aux hommes, du moins dans les représentations, elles ont les mêmes comportements, et c'est vrai qu'on dit souvent que parfois elles sont plus trash que les gars. En fait, ça inquiète surtout parce que ce qui inquiète, c'est les grossesses dans la rue, c'est aussi... la prostitution plus ou moins conscientisée, enfin voilà, mais en fait c'est vrai pour les jeunes hommes aussi.
Alors Christian Lebarthe va certainement avoir envie de rentrer dans notre débat et vous poser une première question. Christian.
Oui, alors parmi les nombreuses qualités de cet excellent ouvrage sur les jeunes en errance, il y a effectivement le fait qu'il est fondé sur des entretiens faits avec les jeunes en question. Donc on les entend, ils nous parlent, on a leur point de vue, on découvre leur histoire. Et donc du point de vue de la méthode, comme on dit en sociologie, ça pose immédiatement une question qui est comment on fait. Il y a beaucoup de chercheurs qui choisissent des sujets beaucoup plus confortables, qui vont vers des acteurs sociaux beaucoup plus disponibles, qui prennent beaucoup de plaisir à se raconter, etc. Là, pour le coup, on utilise parfois dans le métier l'expression « enquêter en milieu difficile » pour désigner ces situations-là. Comment vous avez fait pour les repérer, pour les convaincre de vous parler, à vous, à l'époque doctorante, jeune femme, etc.
Alors, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Ça a fait l'objet d'une réflexion aussi de ma part. Il y a une partie de cette réflexion dans le livre. J'ai d'abord opté pour ce qu'on appelle une posture d'observatrice. J'ai été, en fait, dans les lieux, notamment deux lieux d'accueil à Rennes et dans d'autres lieux. J'y ai passé du temps. En fait, je suis rentrée en contact avec les professionnels qui travaillent dans ces lieux. J'ai demandé si je pouvais passer un peu de temps dans les espaces communs. Souvent, dans ces lieux d'accueil, là, qu'on dit à Basseuil, il y a des espaces où on peut prendre le café, on peut lire le journal, et où il faut attendre aussi. Mais aussi, on peut attendre quand il fait froid dehors. Les gens peuvent rester soit 5 minutes, soit y passer plusieurs heures. Et moi, j'ai passé du temps dans ces espaces-là pour me familiariser, moi, avec ce qui s'y jouait, les interactions, et puis pour que les gens me voient aussi. Alors, je me présentais, où les professionnels me présentaient les raisons de ma présence, elles n'étaient pas toujours complètement intégrées par les jeunes, mais le fait qu'ils me voient régulièrement, plus la proximité quand même de l'âge à l'époque, parce que quand j'ai commencé mon terrain, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là il y a 10 ans, donc j'étais plus jeune qu'aujourd'hui de 10 ans, j'avais à peu près 25 ans, et donc j'avais quand même autour de l'âge d'une partie de ces jeunes-là, donc ça a facilité quand même l'entrée en contact.
Et sur la question du genre?
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont accepté de me rencontrer, quasiment tous, je dirais, dans une première partie de l'enquête, essentiellement des jeunes hommes. Quasiment. Je crois pas, là peut-être je me trompe, mais je crois que j'ai peut-être rencontré une jeune femme, et c'est tout. Et j'ai fait mon enquête en plusieurs vagues, dans une des secondes vagues de l'enquête, j'étais enceinte. Mais j'ai utilisé la même procédure, je m'asseyais dans les salles d'attente, etc. Et là, bon, c'est pas une surprise, mais il y a beaucoup plus de jeunes femmes qui sont venues vers moi. Et forcément, les entretiens avaient un autre contenu aussi. Ça a tourné plus autour aussi de la maternité, des grossesses, des rapports à la famille aussi, quand on devient parent et qu'on est dans ces situations-là de rue. Donc ça a donné des choses intéressantes.
Pas facile d'en sortir. Après seulement quelques semaines à ce rythme, la rupture avec leur ancien monde est profonde.
Avec tes parents, ça va-tu mieux?
Non.
Après des années passées à la rue, ils vivent depuis peu dans cet appartement. Mais sans argent, ni secondaire 5, La culture de rue leur colle à la peau.
Quand vous faites cette démarche, cette enquête, vous expliquez effectivement prendre du temps. La dimension de l'acceptation par le milieu est essentielle. Et c'est pas du tout immédiat. Il faut maîtriser des codes, il faut accepter d'être à l'écoute et de ne pas donner des leçons, parce que c'est souvent ça qu'ils entendent à longueur de temps, les jeunes en errance. Comment vous avez réussi cet apprivoisement réciproque ?
Alors c'est vrai qu'il y a des chercheurs, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur les zonards, sur ces jeunes-là qui vivent en squat. Il y en a qui ont pris le parti d'aller passer du temps dans les squats, vraiment de vivre avec eux, hein, comme beaucoup de sociologues l'ont fait, hein, c'est l'école de Chicago, tout ça. Moi, j'ai pas pris ce parti-là, je suis juste restée vraiment dans l'environnement professionnel. Mais j'ai adopté une posture spécifique qui était celle de leur dire à ces jeunes-là, voilà, moi, je cherche à comprendre la relation, comment vous utilisez les aides, et je connais pas du tout le monde de la rue. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? J'ai besoin de comprendre. Et voilà, en gros, j'ai dit, vous savez, je ne sais pas. Donc, et je disais souvent, moi, j'ai jamais côtoyé la rue, je connais personne qui est à la rue. Je dis, voilà. Et effectivement, faut être dans une forme d'empathie assez forte et surtout ne pas donner de leçons et ne pas non plus essayer d'aider les gens en leur disant oui non mais peut-être que vous pourriez trouver du travail là-bas ou non,
et ne pas non plus les considérer comme des bêtes de foire parce qu'il voilà, y avait aussi ce regard fait, porté ouais, sur qui aurait pu être
tout
mal
fait,
vécu
ouais. Il faut écouter hein, mais c'est vrai qu'on voilà, faut rester à distance.
Christian, d'abord.
Oui, et du coup, vous avez idée de comment vous étiez perçu, c'est-à-dire bon, on imagine qu'il y a quand même chez eux une certaine méfiance, que derrière les personnes qui leur parlent, il y a toujours un peu le est-ce que j'ai pas affaire à une institution, est-ce que c'est pas de la surveillance, est-ce que
un flic en civil,
voilà,
pourquoi pas.
Donc on réussit à désamorcer ça.
Alors, c'est vrai que c'est un biais auquel je m'attendais. Hein. J'ai finalement, ça a été désamorcé un peu malgré moi. Parce que comme je le disais, bon alors il y a une petite chose que j'ai faite quand même, c'est que j'ai pas dit que j'étais étudiante en sciences politiques à cause du mot politique, mais en sociologie. Voilà, c'était plus facile pour moi. Je voulais pas que ça prête à confusion. Mais il y en a beaucoup de jeunes ont pas forcément intégré qui j'étais. Et j'ai notamment passé pas mal du temps dans un centre de soins qui faisait de l'induction méthadone à Basseuil, donc qui donnait de la substitution tous les jours hein, à l'héroïne. Et là-bas, il y a beaucoup d'infirmiers qui font des stages et d'infirmières. Et donc, en fait, les jeunes me transformaient un peu en qui ils voulaient. Il y en a beaucoup qui pensaient que j'étais une stagiaire. D'autres pensaient que j'étais moi-même toxicomane et que j'attendais comme eux pour l'induction méthadone. D'autres encore avaient compris ce que je faisais et ils comprenaient très bien, en fait, la démarche hein, sociologique, le fait de vouloir comprendre. Donc, chacun a donné un petit peu son interprétation et ça a un petit peu atténué ce biais. Ce qui a créé un biais plus fort, en fait, c'est... Je passais du temps dans les lieux vraiment de convivialité. Par contre, pour faire les entretiens seul à seul, en face à face, j'allais dans un bureau séparé. Donc on était carrément dans un autre environnement et là, ça a quand même beaucoup coupé la parole. Donc j'ai ouais, dû croiser beaucoup d'informations. Ça, c'était le biais le plus fort en fait.
Parce que j'imagine qu'il y a chez eux, du coup, une fois que la relation s'établit comme ça, un grand plaisir à se confier parce qu'au fond, il n'y a pas tant que ça... par hypothèse d'oreille attentive. Et est-ce qu'il n'y a pas le risque, alors du coup, qui raconte un peu ce qui arrive dans toute situation d'entretien, mais là peut-être particulièrement, qui raconte une histoire qui n'est pas tout à fait la leur, qu'ils enjolivent la réalité ou qu'ils se racontent à eux-mêmes une histoire qui leur permet un petit peu de sauver la face ou de...
Alors d'une part, c'est vrai que la situation d'entretien était plutôt valorisante pour eux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit à chaque fois ou ce qu'ils m'ont laissé paraître. Pourquoi ? Parce que quand ils sont dans des relations avec de face à face, généralement, ils racontent leur vie tout le temps aux travailleurs sociaux, à tout le monde, toutes les personnes pour recevoir de l'aide. Mais c'est toujours en contrepartie de quelque chose. Là, effectivement, ils pouvaient me raconter ce qu'ils voulaient. Moi, j'avais rien à leur donner en échange, donc ils n'avaient pas à avoir un discours qui collait à ce que je leur demandais. Donc il y avait de la fabulation. Moi, j'utilise volontiers le mot de fabulation parce que il y avait des histoires rocambolesques, des recompositions d'histoires. Alors, on s'en rend compte parce qu'on voit bien que dans la chronologie, il y a des choses qui collent pas ou par rapport à ce que nous ont dit les professionnels. Mais j'ai beaucoup utilisé les travaux de Vanessa Stettinger qui a travaillé sur les vendeurs de journaux dans le métro parisien et qui disait que la fabulation faisait partie de leur vie, même entre eux, en fait. Ils se racontaient des histoires entre amis, hein, et les amis savaient que c'était des histoires, mais ils faisaient vivre ces histoires parce que ça leur donnait une identité. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser aussi le récit pour ce qu'il était, même si il me semblait qu'il y avait de la fabulation. Pour moi, c'était pas un souci.
On va rester un instant sur la méthode de cette enquête singulière, cette rencontre que vous avez menée en allant au contact des jeunes de la rue. Est-ce qu'il y avait des moments privilégiés dans la journée pour réaliser ces entretiens? Parce qu'on se doute bien que c'est pas forcément à 8h du matin que ce genre d'échange peut avoir lieu, ni même peut-être trop tard le soir.
Alors effectivement, il y a des moments, alors ça je l'ai découvert au fur et à mesure de l'enquête. J'ai fait quelques entretiens dans la rue parce que j'avais besoin de sortir des structures justement à cause du fait de se voir dans un bureau qui était souvent celui du psychologue ou du psychiatre. Donc j'avais besoin de faire des entretiens à l'extérieur. Et j'ai fait des entretiens le matin. Alors peut-être pas à 8h, mais à 11h du matin ou 10h ou 11h où je traversais un petit peu la ville et je voyais des jeunes. J'essayais de les trouver quand ils étaient seuls, pas en groupe, et c'était des périodes assez propices en fait, ça fonctionnait bien le matin. J'en ai fait en fin d'après-midi, et là c'était très compliqué. Pourquoi ? Parce que la fin de l'après-midi, c'est la fin de la journée pour tout le monde, pour eux aussi, donc c'est le moment où ils font la manche, où ils ont des sous, parce qu'il y a les gens qui sortent du travail, vont au supermarché, c'est le moment où ils se rencontrent pour aller faire les courses, pour s'organiser, il y en a qui gardent les chiens, ils mettent en commun les caisses, ils vont faire les courses, etc. Et c'est aussi leur moment de sociabilité, où ils se posent, ils boivent une bière, enfin voilà. Et donc les entretiens en fin d'après-midi, c'était pas approprié. Après, aussi, le biais dans les entretiens, c'est que très souvent, ils étaient soit alcoolisés, soit défoncés, comme ils me le disaient souvent. Je suis désolée, je suis un peu défoncée. Et donc, du coup, les entretiens ne duraient pas forcément très longtemps. Alors, c'était toujours autour d'une heure, voire un peu plus. Mais c'est vrai que souvent, les entretiens sociologiques de type récidivie, ça peut durer 2 heures, 3 heures. Là, c'était pas possible, en fait, hein, parce qu'il y avait une capacité d'attention qui était limitée.
Il n'y a jamais eu de violence à votre rencontre? Parce que quand on croise les scènes de rue, on entend souvent des éclats de voix, parfois des gestes qui partent. Vous n'avez jamais été confronté directement à cette situation-là?
Non, moi, j'ai jamais été confronté à ça. Non, vraiment... Je pense que les scènes qu'on peut voir dans la rue sont très éloignées de moi, ce que j'ai pu connaître en les côtoyant. Mais comme tout à chacun qui pourrait côtoyer ces jeunes de manière régulière, la violence, elle émane de frustration, de contrariété, c'est des moments d'éclat. Mais il n'y a pas de violence permanente envers les gens qui les abordent, en fait.
Vous venez d'évoquer à l'instant la présence des chiens, disons on garde les chiens à une certaine heure, c'est aussi un marqueur fort, on parle souvent des punks à chiens sur l'espace public, cette présence de l'animal aux côtés du jeune en errance, c'est un couple indissociable, c'est une présence affective qui est recherchée dans cette association-là?
Alors c'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent...
C'est mon bébé souvent quand on leur parle.
C'est mes enfants, ouais. Souvent ils expliquent qu'ils ne peuvent pas engager un certain nombre de démarches d'insertion ou de soins parce qu'ils vont devoir se séparer durablement de leur animal. Et ils disent, c'est comme si on demandait à une mère ou à des parents de laisser leur enfant. Ils ne comprennent pas, etc. Donc le chien a plein de fonctions dans la rue. Il a effectivement cette fonction affective. Les chiens sont très bien soignés, très bien élevés. Ils s'en occupent très très bien. Il y a aussi bien évidemment une fonction de protection. Il y a Christophe Blanchard qui a mené un travail sur les chiens des jeunes zonards, qui est très intéressant, qui met effectivement en perspective les différentes fonctions de l'animal.
Ben, le matin, déjà on se lève, on va promener, on va les parcourir. On peut en venir un peu à la manche. Après, on passe la journée à la manche. Et le soir, partout où on dort, je les fais jouer. Bon, après, pour eux, ils ont toujours des croquettes parce que les gens, moi, ce que je demande en premier, c'est toujours à manger pour mes chiens après moi. Parce qu'eux, ils n'ont rien demandé. Puis un chien, il ne comprend pas. Il n'a pas une gamelle une journée, il ne comprend pas.
Si on essaie d'aller un peu au cœur du sujet, et au-delà de la dimension passionnante par ailleurs, mais de fabulation que vous évoquiez tout à l'heure, quelles seraient donc les méga logiques explicatives, disons, qui permettraient de rendre compte de cette situation? C'est-à-dire entre quelle est la part de la rupture scolaire, de la rupture familiale, voilà, qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui déclenche, est-ce que vous
pouvez... Et est-ce qu'il y a toujours un fait dateur, déclencheur, que l'on peut identifier, ou est-ce que c'est une accumulation de petites choses qui finalement conduisent à cette situation?
Est-ce qu'on peut généraliser?
Alors, moi j'ai tenté de le faire un petit peu. Je pense que, oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils connaissent un processus de rupture cumulative. Alors ça, c'est pas moi qui invente ce concept, hein. C'est quelque chose que Serge Pogam a déjà beaucoup montré dans ses ouvrages. En fait, c'est qu'ils vivent des ruptures en chaîne depuis leur enfance. Et c'est cumulatif parce qu'effectivement, une rupture va en entraîner une autre. Les ruptures sont liées. Alors effectivement, la rupture familiale, comme je le disais tout à l'heure, va entraîner la rupture scolaire, va entraîner des difficultés d'insertion. l'immersion. Alors pourquoi ? Oui, il y a des logiques structurelles qui expliquent ça aussi. C'est que en France, c'est le choix de la famille qui a été fait. On aide les parents pour aider les enfants. C'est la familialisation des politiques sociales. Et effectivement, quand on pense à la jeunesse, qui est un âge effectivement de transition, moi que j'appelle sans filet, où le seul filet est la famille, parce que si on arrête l'école à 16 ans, ou un peu avant, mais à l'âge de la fin de la scolarité obligatoire, et qu'on touche le revenu minimum à 25 ans, ça fait quasiment 10 ans sans filet. En fait, c'est 10 ans pas sans filet. C'est 10 ans où le jeune est renvoyé quand même à sa famille, en termes de solidarité, s'il a des difficultés. Moi, ces jeunes-là, ils ont des difficultés familiales, ils sont en rupture familiale, ou leurs familles ne sont pas en mesure de les soutenir. Donc déjà, ça, c'est aussi une dimension structurelle. L'autre dimension un peu structurelle, c'est que avec ces trajectoires de rupture cumulative, ils vont avoir du mal, face aux institutions, aux structures de l'insertion pour les jeunes, ils vont avoir du mal à répondre aux exigences qu'on leur pose. C'est-à-dire faire
ils
des démarches.
Ils ne maîtrisent pas les codes, c'est ça ils...
Oui, puis c'est aussi... on demande de faire des démarches, de faire des projets de vie. Eux, ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Ils sont dans une autre logique depuis déjà au moins 10 ans. Ils sont dans une logique de vie de rue, de débrouille, de défiance à l'égard de la société. Ils sont pas dans ces logiques-là.
Le rapport à la temporalité n'est pas le même non plus.
Et puis,
ils ont
ils ont des difficultés aussi, des choses psychologiques qui les entravent, des difficultés aussi de santé qui émergent de la vie à la rue, qui font qu'ils vont pas être en mesure de contractualiser sur un projet d'insertion, une formation, voilà.
Est-ce que la logique, par exemple, de rupture familiale est tellement décisive qu'on peut y compris trouver dans cette population des gens dont l'origine sociale peut être classe moyenne ou, disons, des gens dont les parents seraient par ailleurs bien intégrés. Ça...
Oui, alors effectivement, ouais. Ça ne va pas être forcément les mêmes trajectoires, exactement. Moi, dans ceux que j'ai rencontrés, hein, je ne vais pas généraliser, mais les trajectoires sont souvent moins longues. Ça va être des jeunes qui vont arriver peut-être un peu plus tard, aux premières années de fac, fin du lycée, pour des questions de conflits familiaux et pas parce qu'ils viennent de milieux défavorisés.
D'accord.
Bien évidemment, les conditions socio-économiques de vie des familles ne facilitent pas les choses quand en plus il y a des difficultés familiales, des violences familiales, des choses difficiles à vivre. Mais c'est pas qu'une question de milieu social. Ce qui va se passer, c'est que pour répondre aux injonctions des institutions de l'insertion, les jeunes qui viennent de milieux plutôt classe moyenne ou plutôt favorisés vont être plus armés pour manier ces injonctions à l'insertion. Parce que c'est les mêmes codes, c'est la même façon de parler, et ils ont quand même intégré ça dans leur socialisation initiale.
Est-ce qu'on ne retrouve pas d'ailleurs, en prolongement de la question de Christian Lebar, pour ces jeunes issus de classe moyenne, notamment chez les filles, un phénomène d'identification, notamment à Rennes, ville étudiante s'il en est, où l'on a constaté, je crois que vos travaux l'avaient clairement montré, qu'il y a parfois dans la population des jeunes étudiantes qui arrivent pour s'inscrire à l'université à Rennes, eh bien, une espèce de fascination pour ce monde de la rue, un petit peu avec peut-être aussi un cœur de Mère Teresa, on va sauver le monde, on va les aider, et puis tout d'un coup on est entraîné, une relation amoureuse, et on quitte le domaine bien balisé pour aller à la rue. Vous l'avez constaté?
Alors c'est vrai qu'il y a ça, il y a une fascination. Par exemple, l'exemple que vous donnez, c'est des jeunes qui vont pas forcément rester très longtemps à la rue, qui vont, s'ils veulent s'en sortir, ils vont avoir effectivement les ressources, ils vont réussir à se mobiliser pour prendre une autre trajectoire. Il y a une fascination, mais je dirais comme tous les jeunes sont fascinés par des mouvements culturels, notamment des cultures underground comme ça un peu. C'est fascinant. Eux, ils sont très visibles.
La marge fascine toujours un peu.
Voilà,
c'est vrai.
Bien évidemment. Donc il y a effectivement ça. Après, quand on parle avec les travailleurs sociaux, avec les éducateurs de rue, ces profils-là, ça va être ceux qui vont être les plus facilement rattrapables. C'est pas du tout joli comme mot, mais s'ils veulent s'en sortir, ils vont avoir les capacités, ouais. Pour ce qui inquiète surtout, c'est la prise de risque, parce que du coup il y a des prises de risque qui sont très fortes,
des mises en danger,
oui, qu'on peut appeler des mises en danger. Encore une fois, moi je rattache toujours ça à la jeunesse de manière générale, hein. Quand on est jeune, on a envie de tester plein de trucs. Bon, voilà. Après, c'est vrai que les professionnels qui sont directement au contact de ces populations-là, ils savent ce que font les jeunes. Ils savent comment c'est la vie dans les squats, ils savent les consommations de toxiques, etc. Donc ça effraie. Mais la prise de risque fait partie aussi de cette période de transition. Certains parlent de rite initiatique, ouais, de la rue. Et je pense qu'il faut distinguer la rue en tant que rite initiatique de passage à l'âge adulte de la rue comme carrière, effectivement, de marginalité. Parce que c'est une forme de socialisation secondaire. Moi, les jeunes que j'ai rencontrés, c'est autre chose. C'est leur identité, c'est une identité zonarde, une identité de rue.
Alors, oui, ce qui pose une question, alors là, vraiment une question fondamentale de sociologie de la déviance, en fait, qui est jusqu'à quel point ces jeunes parviennent-ils à sublimer leurs conditions et à se considérer non pas comme dominés, relégués, exclus, mais comme alors le terme de carrière est quand même dans le titre du livre est quand même très très provocateur d'une certaine façon. Vous parlez de carrière, vous parlez de socialisation comme si c'était au fond un autre monde, mais qui avait après tout comme le mien, comme le vôtre, c'est le même d'ailleurs, ses règles, ses normes, sa grandeur, ses etc. Alors jusqu'où on peut pousser la métaphore, c'est-à-dire dans ces récits un peu peut-être un peu romantiques, un peu chevaleresques de la rue comme espace vrai, etc. Jusqu'où on fabule, jusqu'où on peut se mentir à soi. C'est-à-dire, est-ce que sur le long terme c'est tenable ça? Est-ce que c'est pas une défense face au discours de stigmatisation?
Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, effectivement, c'est la mise en récit qu'ils avaient de leur trajectoire. Donc effectivement, là, dans cette mise en récit, il y a une sublimation, en tout cas une valorisation de leur façon de vivre, des choix qu'ils ont faits, et aussi une valorisation de la trajectoire difficile qu'ils ont eue. C'est-à-dire qu'ils expliquent, il y a toujours la question du choix et du non-choix. Est-ce qu'on est sur les jeunes à la rue, est-ce qu'ils ont choisi, pas choisi, non, ils disent qu'ils choisissent, mais en fait ils subissent. Moi, c'est au-delà de ça, c'est autre chose que j'ai voulu mettre en évidence, c'est que ils vont mettre en valeur leur trajectoire difficile et ils vont expliquer qu'au titre de cette trajectoire difficile, ils ont le droit d'avoir une vie qui est alternative, hors norme, mais comme d'autres ont une vie qui est alternative, qui est hors norme. Et ils ont le droit de s'émanciper des injonctions qui sont faites à la jeunesse, parce que quelque part, elles ne les concernent pas. Elles ne les concernent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, dans leur discours, qui est un discours très politique, une défiance à l'égard de la société, du néolibéralisme, alors d'une métro-boulot-dodo. Enfin voilà, c'est toujours très... Mais effectivement, pour moi, il y a vraiment une socialisation alternative, une socialisation marginalisée, comme dit Michel Parazelli, qui est un sociologue qui travaille au Québec. Parce que c'est, comme tout adulte a une socialisation secondaire au moment où il endosse son rôle professionnel, sa carrière, où il se marie, ces jeunes-là, ils transforment leur identité quand ils commencent à vraiment décider qu'ils vivent dans la rue, dans la communauté de la zone.
Alors Céline Rothé, on va vous retrouver dans quelques instants pour poursuivre cet échange et ce débat sur les jeunes en errance. C'est le titre de l'ouvrage que vous venez de publier aux presses universitaires de Rennes. Mais avant cela, on écoute Josephine Foster, My Wandering Heart, c'est maintenant.
My wandering heart is wandering wide, is wandering wide, is wandering wide. My wandering soul is wandering wide, is wandering wide, is wandering wide. as a shepherd and follow me, follow me, follow me. Was a shepherd and follow me. Wake up, kiss me, send my olive tree. Like I did with them wise men free. Wake up, wandering infinitely. Like I did.
Josephine Foster, My Wandering Heart, à l'instant sur Canal B. On entame la seconde partie de Chercheur en Ville. Notre invitée du jour est Céline Rothet, docteur en sciences politiques, chercheur au laboratoire LAREN et ingénieur de recherche à l'école des hautes études en santé publique. Dans la première partie de l'émission, nous revenions sur les caractéristiques de ceux qu'on appelle les jeunes en errance. Il s'agit d'ailleurs d'une appellation plutôt administrative et utilise davantage le terme de zonard. On a entendu que pour certains et certaines, les trajectoires de rue pouvaient commencer tôt, parfois à la fin d'une scolarité inachevée, parfois durer pendant 10 ans, voire plus. Céline Rothet nous a aussi raconté la manière dont elle a pu, au cours de ses travaux de recherche, rencontrer et écouter ces jeunes qu'on n'entend pas ou bien qu'on ne veut pas entendre, car on les voit, ils sont présents dans l'espace public, parfois ils gênent. Cette seconde partie abordera la question de la géographie de l'errance. Rennes est une ville qui accueille et voit rester ces jeunes en errance dans des endroits stratégiques de la cité. Et puis nous aborderons aussi la question de l'action publique et des moyens pour ces jeunes de sortir de cette marginalité. Céline Rothet répond aux questions de Christian Lebar et Xavier de Montride.
Céline Rothet, vous nous parliez à l'instant de la socialisation marginalisée. J'aimerais savoir comment se passe justement la solidarité dans ces groupes de jeunes que l'on croise dans la rue. Est-ce qu'il y a des codes d'entraide, de solidarité justement pour se débrouiller, faire face? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous avez pu observer dans le cadre de vos travaux de recherche?
Alors comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pas vécu dans la communauté de la rue. Par contre, par rapport aux structures d'aide et à la façon d'être aidé, ce qui m'a souvent été rapporté, c'est Radio Zone. Alors ça, les professionnels le disent, les jeunes aussi. Radio Zone, c'est quand il y a des jeunes qui m'ont dit, hein, je suis arrivé à la gare de Rennes, j'ai fait la manche, tout de suite il y a quelqu'un qui m'a abordé, qui m'a demandé d'où je venais, où je dormais ce soir et qui m'a expliqué un petit peu où est-ce que je pouvais me laver, où est-ce que je pouvais trouver à manger, où est-ce que je pouvais dormir.
Un travailleur social ou un...
Ah non, un autre jeune.
Un autre jeune.
Ouais. Ce qui fait qu'avec Virginie Moniglia, on a écrit ça dans un article de la RFS en 2013, je crois. On a mis en évidence ces logiques de cooptation à la rue. Vous parliez tout à l'heure de ces jeunes femmes qui s'en amourachent d'un homme plus âgé et qui du coup vont intégrer la communauté de rue de cette façon-là, hein, sous protection. Alors bien sûr, il y a aussi des contreparties, etc. Enfin, il y a cette dimension-là. Mais il y a aussi des logiques de cooptation là, entre jeunes hommes. Ça nous a souvent été rapporté où, ben voilà, comme je le dis, quelqu'un aborde un autre jeune en lui disant, ben voilà, tu peux dormir au squat
ce soir.
On a un
plan ce soir. Voilà.
Voilà. Alors après, ça ne veut pas dire que tout est rose dans la communauté de rue, parce que les jeunes me disaient souvent, quand j'enregistrais, ils me disaient, ouais, parce que c'est pas facile, dans la rue, c'est compliqué, on se fait voler, on se fait violenter. Enfin voilà, ils mettaient en évidence le fait que c'était pas simple. Mais en off, ils me disaient aussi qu'ils avaient des vrais amis dans la rue. Et c'est vrai que ce qu'on constate beaucoup, c'est qu'il y a des amitiés, voire des amours très fortes on voit des couples de rue qui fonctionnent ensemble des années, alors des couples amoureux ou pas, hein, mais parce qu'il faut être protégé, il faut être avec quelqu'un en qui on a confiance. Alors il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus qui s'appelle Tristana Pimor, qui a sorti un livre il y a pas longtemps, et qui a travaillé elle vraiment sur la communauté de rue et qui fait un parallèle aussi avec avec la famille, enfin comment la communauté reconstitue une famille,
une forme de substitution en quelque sorte.
Voilà, ça s'appelle Zonard en famille dans la rue, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont intéressés par cette question là
En répondant à ma question, vous évoquiez cette scène du jeune qui débarque à la gare de Rennes et qui se trouve justement un petit peu prise en main grâce à Radiozone. La gare de Rennes, justement. Est-ce que on peut considérer qu'il y a dans la ville, et singulièrement dans cette ville ici à Rennes, une géographie de l'errance, des lieux de fixation qui, d'une manière presque immémoriale, sur un très long temps, se reproduiraient, seraient toujours présents?
Alors, effectivement, il semblerait qu'il y ait des lieux de fixation. Alors, moi, j'ai été une grande observatrice de Rennes il y a quelques années. Je le suis beaucoup moins parce que j'y vis plus et ça change beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'ai eu une réflexion aussi sur l'architecture urbaine. On sait comment l'architecture déplace les populations. Hein,
On se souvient des bancs anti-SDF voilà, hein, qui empêchent de s'allonger sur un banc public.
Et puis le centre-ville de Rennes change. Hein, le centre-ville de Rennes change. Il y a un centre des congrès qui se construit. Il y a eu des aménagements d'un certain nombre de places qui ont déplacé hein, les populations errantes. La place Sainte-Anne a été extrêmement investie il y a 10 ans, vraiment. Moi, je me souviens vraiment de voir des jeunes assis sur toute la place.
Après,
elle ne l'est plus. Il y a eu ces petits marchés un peu partout sur toutes les places de la ville qui ont fait qu'il n'y avait plus vraiment possibilité de stagner sur la place. Là, je constate hein, depuis quelques temps qu'il y a de nouveau des gens qui restent. Les marches de l'église Saint-Aubin aussi, hein, voilà, elles sont plus accessibles. Mais à l'époque où j'ai commencé mon travail, les jeunes étaient assis en masse là sur les marches de l'église. Et c'est vrai dans plein de villes, ça. Les marches des églises, mais parce que c'est des lieux symboliques, c'est des lieux qui surplombent les centres-villes, c'est des lieux où ils sont vus aussi. Mais effectivement, il y a une géographie de l'errance, mais c'est une géographie qui va suivre aussi la géographie des structures de l'assistance, qui bougent aussi, qui ont bougé pour plein de raisons, aussi des raisons architecturales, des raisons de circulation dans l'espace du centre-ville, de fonction aussi de l'espace du centre-ville. Hein, je pense que voilà, des populations qui vont être plus ou moins bien tolérées selon la fonction des espaces. Et la place de l'Opéra, hein, la place de la mairie, voilà, a été aussi beaucoup, beaucoup investie. Hein,
aujourd'hui, c'est plutôt l'esplanade de Charles de Gaulle, c'est voilà. La gare, mais là, avec les travaux,
le
c'est un peu compliqué.
Il y a quelques années, on en avait parlé il y a 2-3 ans, effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de nuisances pour les habitants.
Christian Lebart, une question.
Vous évoquez dans votre livre les arrêtés anti-mendicité. Est-ce qu'ils ont produit des effets en termes de déplacement massif de la population, ou est-ce que c'est complètement de la poudre aux yeux ou...
Alors, c'est, les arrêtés anti-mendicité, c'était une époque aussi. Je les évoque surtout parce qu'ils ont été très polémiques. Enfin, ils ont suscité beaucoup de polémiques parce que...
étaient très politiques.
Oui, et puis qu'on opposait subitement les vieux clochards à la barbe fleurie aux jeunes en errance, violents et agressifs, et puis surtout il y avait toute cette dimension d'une jeunesse qui se perd alors qu'elle devrait justement investir l'avenir. Voilà. Après, quels effets ils ont produits? Alors, je dis peut-être des bêtises, je pense pas qu'il y en ait qui aient été pris à Rennes, hein, je serais surprise.
Non, il n'y en a pas eu.
Dans une ville comme Rennes. Oui. Ça a été pris dans des villes, effectivement, qui voulaient protéger leur patrimoine touristique, les centres-villes.
Et avec une orientation politique opposée à celle observée à Rennes, je crois.
Voilà, tout à fait, ouais. Enfin, pas toujours, hein, mais
pas
la plupart du temps.
Pas systématiquement.
Pas systématiquement. C'était aussi des raisons touristiques, et puis, j'ai pas étudié ça en profondeur, mais je pense, et on peut le comprendre, hein, les commerçants, les gens qui faisaient les festivals, parce que c'est ça, hein, l'origine, c'est l'errance festivalière, c'est les jeunes qui faisaient la route pour aller aux abords des grands festivals. Il y avait des
Ce qui explique que
massifs.
Rennes soit d'ailleurs bien placée sur cette carte-là, si on l'élargit un petit peu à la région.
Oui, oui.
Il y a les festivals, il y avait les charrues, etc. Oui. Et alors, on s'arrête à la gare et quelquefois on y reste, c'est ça aussi.
Oui, oui, et puis c'est des villes de tradition festivalière. Et effectivement, au départ du mouvement, ça a été beaucoup ça. Les jeunes faisaient la route en camion, trouvaient quelqu'un qui avait un camion pour faire la route. Et puis s'arrêtaient dans une ville ou dans une autre. Bien évidemment, c'est beaucoup plus propice de s'arrêter dans une ville comme Rennes, où il y a des structures, il y a des aides, où il y a déjà une communauté de rue, que dans une ville où il y aura des arrêtés anti-mendicité et où on va être reconduit à la porte de la ville systématiquement et ne pas être aidé.
Alors nous bagarrons contre la pauvreté, mais pas contre les pauvres. Le pauvre a le droit de tendre la main pour avoir un bout de pain. Et maintenant, on va lui mettre une amende de 38 euros. Dieu soit béni, il ne peut pas la payer. Mais nous, nous allons payer les fonctionnaires qui vont passer pour mettre ces amendes. Enfin, c'est en dépit du bon sens.
Vous évoquez les dispositifs de l'aide qui peuvent exister. On va peut-être s'arrêter un instant, et je sais que Christian Lebart à mes côtés a des questions précises sur cette action publique, justement, qui peut faciliter ou en tout cas accompagner ces situations de jeunes en errance. Rennes, de ce point de vue, présente quelques singularités ?
Alors, Rennes est une ville qui a une tradition quand même d'action sociale très ancrée, une tradition d'intervention en direction de la jeunesse aussi, d'intervention d'éducation populaire. Enfin voilà, en tout cas, il y a effectivement un terreau qui est très favorable à la prise en charge de ces jeunes-là. Il y a eu beaucoup d'initiatives aussi, hein, parce que le réseau des travailleurs sociaux est un réseau. Enfin, réseau, je ne sais pas si on peut parler comme ça. En tout cas, il y a des partenariats, surtout informels, entre des gens qui travaillent de longue date.
Il y a des associations qui sont engagées depuis très longtemps aussi sur le terrain.
Et puis des professionnels qui sont là depuis longtemps. Et ça, c'est important, parce que quand on est un professionnel dans le travail social, qu'on est là depuis longtemps, on connaît très bien ses collègues, on sait comment ils fonctionnent.
On est respecté.
Et on peut aussi aller au-delà de parfois certaines impossibilités institutionnelles et travailler comme ça de manière très très réactive là où ça prendrait beaucoup plus de temps.
Du bricolage intelligent.
Voilà, donc il y a beaucoup ça à Rennes. J'ai pas fait de comparaison, donc je me lancerai pas dans le fait de dire Rennes est plus propice ou moins propice. Mais en tout cas, il y a cet environnement qui est quand même favorable et il y a eu des tentatives de dispositifs.
Christian Lebas.
Oui, alors ce que vous dites aussi, c'est s'il y a ces dispositifs assez ambitieux hein, de prise en charge de ces populations, c'est aussi parce que ces groupes font peur. Hein. Ils sont visibles et ils font peur. Donc il y a une grande charge symbolique autour de la présence des jeunes dans la rue. Et le paradoxe étant que cette visibilité dans l'espace public se double d'une relative insaisissabilité par l'action publique. C'est-à-dire aussi, on a affaire à des groupes qui fuient les dispositifs, parfois, qui s'en méfient, y compris quand ces dispositifs se donnent à voir comme des dispositifs d'aide. Alors, quelle est un peu la morale de l'histoire dans cette affaire-là ? C'est-à-dire, est-ce que les dispositifs, vous parlez de seuil bas ou de bas seuil en matière d'hébergement, par exemple, est-ce qu'il y a des dispositifs qui, quand même, ont fait leur preuve ?
Alors, moi, ce que je mets en évidence, là, effectivement, j'insiste beaucoup dans le livre sur le bas seuil, parce que
finalement... Peut-être expliquer cette notion de bas seuil, je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs soient familiers.
C'est un peu du jargon professionnel.
Voilà, on va le traduire alors.
Ça veut dire, en fait, je l'oppose en fait au dispositif qui demande, en contrepartie de l'aide, quelque chose. Qui demande d'entrer dans une démarche d'insertion, qui demande un projet, qui demande n'importe quoi.
Mais là, on ne demande pas grand-chose, voire rien du tout, c'est ça ?
Là, il y a juste le respect minimum des règles de vie dans le lieu, des gens qui
c'est
sont...
important.
Voilà. Mais dans ces dispositifs-là, d'ailleurs, c'est des dispositifs qui ne sont pas que à destination des jeunes, hein, c'est à destination de tout public qui a besoin d'être aidé sans condition. Ça veut dire qu'ils peuvent venir et repartir. Et ils peuvent revenir et repartir autant de fois qu'ils veulent. Et ils n'ont aucun compte à rendre. Alors, les dispositifs, là, ils fournissent des services. Ça peut être un repas, ça peut être la possibilité de se laver, ça peut être une induction méthadone, par exemple, sans obligation d'arrêter d'être toxicomane. Et c'est important pour ces jeunes-là parce que les dispositifs qui vont être plus haut seuil, pour réutiliser ce jargon-là, des dispositifs comme les missions locales par exemple, qui sont là pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et qui, c'est aussi leur mission, c'est normal hein, vont demander une contrepartie au fait d'être aidés financièrement ou vont demander aux jeunes de s'engager dans un projet d'insertion. Et les jeunes que j'ai rencontrés, ces jeunes zonards là, ces jeunes à la socialisation un peu alternative, marginalisés, ils sont pas du tout dans cette logique d'insertion là. Donc ils vont effectivement largement privilégier les lieux à Basse-Teuil qui vont devenir pour eux des lieux de marginalité. Parce que puisque ces lieux existent, ces lieux où ils peuvent être aidés sans qu'on leur demande rien en contrepartie, ça veut aussi dire qu'ils ont le droit, eux, d'exister socialement dans leur identité. En tout cas, c'est comme ça qu'eux le présentent. Bien évidemment, ces lieux à Basse-Teuil sont là normalement pour remobiliser les gens au travers du lien de confiance, en remobilisant l'estime de soi.
C'est une étape, théoriquement.
Une étape pour les remobiliser, aller vers autre chose.
Et donc, ça veut dire que s'inventent, au fond, des formes d'action publique qui sont un peu novatrices, expérimentales, beaucoup plus souples, beaucoup moins institutionnalisées, entre guillemets, que les dispositifs d'action publique traditionnels qui laissent échapper ce type de population.
Alors, est-ce que ça s'invente ou c'est une reformalisation de quelque chose qui existe ? C'est l'urgence sociale, en fait, hein, principalement, ces structures à basse seuil. C'est l'urgence sociale qui se routinise, finalement. c'est une politique d'urgence qui se routinise, puisque bah, des gens qui ont besoin dans leur vie de recourir à ces dispositifs sont de plus en plus nombreux et ont du mal à se sortir des logiques dans lesquelles ils sont. Mais c'est les professionnels qui travaillent dans ces dispositifs qui vont inventer et surtout qui connaissent tellement bien leur public, qui savent tellement bien comment travailler avec eux et qui travaillent aussi bien ensemble entre professionnels, c'est eux qui vont réussir à effectivement réinventer, renégocier l'action publique, mais pas que eux. Eux en l'occurrence les jeunes, mais je pense que ça peut s'appliquer aux moins jeunes, et les usagers de ces dispositifs, qui vont en faire autre chose que ce à quoi ils sont dédiés. Alors la difficulté qui se pose, c'est qu'au final, cette infra-assistance, hein, pour reprendre encore les travaux de Serge Pogam, c'est-à-dire ces dispositifs qui sont en dessous de l'assistance, normalement ont vocation à remobiliser les gens pour qu'ils puissent aller vers l'assistance, voire vers le droit commun. En l'occurrence, ils sont tellement bien, entre guillemets, dans cette infra-assistance qui est adaptée à ce qu'ils demandent, en tout cas à la logique de vie dans laquelle ils sont inscrits, qu'ils n'ont pas du tout envie de s'en émanciper. En plus, ces jeunes étant dans une logique de rupture de liens successifs, quand ils ont noué un lien avec un travailleur social, avec un éducateur, dans un lieu qui les sécurise, un lien qui est valorisant, ils n'ont pas du tout envie de le rompre pour se rendre tout seul à l'hôpital ou tout seul, je ne sais pas où, demander des aides.
Alors vous évoquez à l'instant l'hôpital ou les aides psychologiques, affectives. Cette dimension de la psychiatrie dans la rue, elle est quand même très forte. On avait rencontré avec la revue Place Publique il y a quelques années, vous nous aviez d'ailleurs aidé à réaliser ce numéro, Céline Rothet. On avait rencontré un psychiatre rennais qui travaille auprès de ces populations et on avait retenu une formule un peu lapidaire, sans doute réductrice, mais qui disait bien les choses. Il nous disait « la rue rend fou ». Il instruisait ce constat très violent par l'observation effectivement de pathologies psychologiques très très fortes, très profondes, très très variées. C'est aussi une dimension dont il faut tenir compte quand on s'adresse à ces populations-là.
Bien sûr. Alors on a beaucoup échangé avec Philippe Leferrand à ces sujets-là. Et oui, il dit la rue rend fou, la précarité rend fou. C'est pas que la rue, c'est pour ces jeunes-là, c'est toute leur histoire de vie qui est difficile, qui est une succession. Pour ne pas dire d'échec aussi de traumatisme, hein, parce que c'est, je ne vais pas revenir en détail sur les histoires de vie, mais voilà, on peut imaginer beaucoup d'horreurs, et c'est ça qu'ils ont vécu.
Oui, le sac est assez lourd à tirer, quand même.
Voilà.
Hein.
Donc, effectivement, quand on dit, quand on entend ces jeunes, ils ne font pas d'efforts, ils ne veulent pas faire de projets, ils veulent vivre de l'assistance, c'est effectivement plus complexe que ça. C'est qu'ils ont une charge psychologique qui est très, très forte. Et quand ils ont, dans leur mise en récit, c'était très intéressant, parce qu'ils disaient à la fois. Moi, j'ai choisi d'être là, j'ai choisi, moi, métro, boulot, dodo, là, ça me dit pas. Moi, j'ai envie de vivre au jour le jour, même si c'est dur des fois, même si c'est pas facile et qu'on a froid, etc. Mais ils disent aussi, mais moi, c'est pas que je veux pas, mais je peux pas. Et les gens, ils pensent pas se mettre à ma place. Et moi, je suis pas assez bien dans ma tête pour réussir à faire des choses. Et c'est vrai que souvent, ils racontent comment, même parfois, ils ont trouvé un travail et ils sont rattrapés par leurs histoires. Et quand on connaît, quand on a entendu leurs histoires, bien évidemment, on comprend pourquoi ils sont rattrapés. Donc la dimension psychologique, elle est très importante. Ouais.
Et on peut justement les accompagner sur ce terrain-là. Il y a tout un travail d'accompagnement, mais ça prend du temps.
Alors c'est compliqué, alors parce que quand on bascule aussi du côté des pathologies psychiatriques, parce qu'il y en a beaucoup dans la rue, on revient un peu à la même idée, c'est-à-dire que les patients, les usagers sont renvoyés à leur famille, hein, sont renvoyés à leur domicile. Donc on voit bien ce que ça fait pour des gens qui n'ont ni famille ni domicile vers qui se tourner. Donc effectivement, il y a beaucoup beaucoup de choses encore à inventer. Le travail que font les professionnels qui sont dans ces structures à bas seuil, hein, qu'ils soient infirmiers, éducateurs, peu importe finalement leur métier, ce travail de restauration du lien est effectivement essentiel, de restauration de la confiance et de l'estime de soi.
Ça fait une semaine que je suis dans le logement, ça fait 2 mois que je fais partie du programme. Je pense que c'est une bonne porte qu'on m'a ouverte, quoi. D'abord un logement. Après, petit à petit, bon, je sais pas ce qui va se passer, mais sûrement ça va être positif.
Céline Rothet, en vous entendant et en vous regardant nous parler de ces situations difficiles, on sent bien que derrière la chercheure, la spécialiste, il y a eu aussi de l'émotion. Vous avez eu des rencontres humaines et en évoquant, sans les nommer, ces personnes-là, je sens bien qu'il y a des figures qui apparaissent, il y a des souvenirs qui reviennent. Ça laisse pas indemne de travailler sur ce thème-là.
Non, et puis, alors, bien évidemment, les rencontres avec les jeunes, elles sont inoubliables, parce que voilà, c'est des histoires de vie, et puis c'est aussi la découverte d'un univers qui est pas si éloigné, en fait, qui est vraiment palpable, qui est compréhensible. Et moi, c'est aussi pour ça que quelque part, c'est une militance, c'est de dire que voilà, si on comprenait davantage les trajectoires des gens, on jugerait beaucoup moins et on serait beaucoup moins dans quelque chose de très manichéen qui aussi précipite dans des trappes, voilà, des gens qui sont pas capables de répondre à certaines exigences.
Alors pour prolonger, les entretiens datent d'il y a une dizaine d'années, au fond, presque.
Pour les plus anciens d'entre eux, sans doute. Hein.
Oui. Est-ce que vous avez gardé contact avec certains ? Est-ce qu'il y a des trajectoires qui sont des trajectoires, je ne sais pas comment les appeler, mais enfin, disons de retour à une vie standard plus classique ? Ou est-ce que l'installation dans la carrière, pour reprendre votre expression avec quand même des guillemets, est telle qu'il y a une sorte de fatalité. Il y a des pages très dures, par exemple, sur un jeune qui prend un appartement et puis ça se passe pas bien parce qu'il sait pas gérer un appartement.
Alors, c'est voilà, compliqué, vous savez, l'autonomie. L'apprentissage de la liberté, c'est pas simple.
Alors... Je pense que effectivement. Alors moi, j'ai pas gardé de contact avec les jeunes. J'ai gardé beaucoup de contact avec les professionnels, par contre, avec qui je continue à travailler, à collaborer. Donc voilà, je suis quand même au fait de l'actualité, de ce qui peut se passer un petit peu dans la rue à Rennes. Je croise par contre les jeunes, parce que moi je les reconnais. Eux, ils me reconnaissent pas, mais moi je les reconnais parce que je me souviens d'eux forcément. Alors ils sont plus très jeunes, c'est comme moi. Hein, ils ont pris 10 ans, mais.
C'est des années qui comptent double dans la rue, non ? Pour certains d'entre eux.
C'est ouais, la vie à la rue est dure quand même, effectivement. En plus, toutes les conduites, les consommations, etc.
On dit que l'espérance de vie n'y est pas très...
Délevé. Alors, moi, quand je faisais des entretiens avec les jeunes, très souvent, certains me disaient, ah oui, là, on rentre d'un enterrement, voilà, d'amis à eux, qui avaient fait une overdose, qui avaient eu un accident. Oui, non, ça paraît assez logique, oui. C'est effectivement des vies qui sont dures. Mais moi, je les recroise et je les vois et je les reconnais. Puis, voilà, je les vois parfois avec des enfants. Et puis, quand on est sociologue, on commence à savoir un petit peu observer. Donc, on décode aussi parfois des choses. Voilà, je sais que certains ont des enfants, mais ils les voient pas. Voilà, ils en ont pas forcément la garde, ils les voient de temps en temps, ils les voient dans l'espace public, voilà. Donc, voilà, l'idée de la carrière, c'est pas forcément quelque chose de définitif, hein. C'était plus l'idée, mais bien sûr, comme à la Becker, hein, de comment on s'engage de plus en plus profondément dans une identité déviante, qu'on peut par ailleurs valoriser soi-même et dans sa communauté qualifier de déviante, mais dont il est difficile de sortir. Et je pense qu'effectivement, la plupart d'entre eux ne sortent jamais complètement de cette identité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir une vie qui est stabilisée. Une vie stabilisée, ça ne veut pas dire forcément avoir un appartement, mais beaucoup rêvent de vivre en petit habitat mobile, camion, caravane, et ils ont des petits boulots et ils arrivent à s'installer, et ça avec le temps. En fait, les moins jeunes des jeunes que j'ai rencontrés, parce que j'en ai rencontré qui avaient déjà au-delà de 30 ans, ils faisaient tous part quand même de leur fatigue de cette vie-là et de l'aspiration à avoir une vie plus posée. Ça ne veut pas dire une vie conventionnelle, parce qu'ils valorisent leur appartenance à la rue, cette marginalité, cette défiance à l'égard de la société traditionnelle, enfin conventionnelle plutôt. Mais voilà, une vie plus posée, oui, beaucoup arrivent à l'avoir.
Alors Céline Rothet, on arrive déjà au terme de cette émission. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet éminemment d'actualité, je pense aux migrants. Est-ce que justement l'arrivée massive de ces populations déracinées sur nos territoires va modifier la composition sociologique des jeunes en errance ? Est-ce qu'il va y avoir cohabitation de parcours différents ? Et là, avec une internationalisation, avec tous les problèmes, toutes les questions que cela peut susciter en termes de culture, en termes de langue, est-ce que vous avez des éléments là-dessus ?
Alors, effectivement, ces dernières années, Rennes est confrontée à cette question-là.
On parle des mineurs isolés, notamment.
Voilà. Alors, les lieux d'accueil sont largement investis par les communautés migrantes. Moi, je n'ai pas étudié en détail, parce que, bien évidemment, dire les migrants, c'est très
large. Oui, c'est très réducteur.
Les cultures étant tellement variées, etc.
Attention, stéréotype.
À l'époque où je faisais mon enquête, je me souviens très bien qu'il y avait un très, très grand squat en centre-ville de Rennes où cohabitait une partie des jeunes que je rencontrais avec une communauté polonaise. Voilà. Il y a eu des cohabitations, mais aujourd'hui, c'est plutôt effectivement, c'est très tendu. On a travaillé avec des professionnels, des éducateurs, notamment du centre-ville de Rennes, qui travaillent dans la rue, sur le fait que les jeunes disparaissaient des structures sociales et disparaissaient même des radars des éducateurs de rue, parce que d'eux-mêmes, finalement, ils ne sollicitaient plus ces structures à basse œil, car la concurrence, entre guillemets, était trop forte, mais il n'y a pas de jugement, hein, c'est qu'il y a de plus en plus de populations en précarité, la zone de vulnérabilité grossit, la zone de précarité grossit, et du coup ces jeunes, finalement, ne vont plus dans les structures sociales, ce qui inquiète beaucoup les professionnels. Et bien évidemment, l'arrivée massive des migrants crée des tensions fortes parce qu'il faudrait augmenter les budgets, il faudrait repenser les structures, il faudrait... voilà. Et ça crée aussi des conflits, hein, parce que certains, mais comme il y a eu des polémiques, hein, on a entendu ça au niveau national, certains ont du mal à comprendre pourquoi un jour ils pouvaient bénéficier de telle aide, éventuellement de tel hébergement d'urgence, et pourquoi dès le lendemain, par arrêté préfectoral, ils y ont plus le droit et que les migrants qui arrivent y ont le droit. C'est compliqué.
Effectivement, l'histoire n'est pas terminée. Merci Céline Rothet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage issu de votre thèse, Jeunes en errance, relations d'aide et carrières de marginalité. C'est publié ce mois-ci aux presses universitaires de Rennes. Très bonne suite de programme sur Canal B.
Merci.